Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Et bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'une semaine sportmédiable sur Radio Rythme Bleu. Nos invités du soir, Ricardo Baroni, Pierre Forest, Eric Figuère et Yann Stéphane. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. On va commencer, si vous le voulez bien, par le football, puisque c'était le coup d'envoi de la saison 2026-2027 de Ligue 1. On va rappeler les résultats qui, pour certains, font grand plaisir à certains de nos consultants. Marseille s'est imposé 4-0 sur Strasbourg en ouverture de cette journée. Lens a battu Auxerre 5 buts à 2. Match nul de but partout entre Le Mans et Brest. 0-0 entre Nice et Lorient. Lyon s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Toulouse. 0-0 entre Troyes et le Paris FC. Puis ce matin, Lille est allé s'imposer 2-0 sur la pelouse d'Angers. Monaco s'est imposé 1-0 sur la pelouse du Havre. Et le Paris Saint-Germain, enfin Rennes et le Paris Saint-Germain ont fait match nul de but partout. Qu'est-ce qu'on retient de cette première journée de championnat qui ne veut pas dire grand chose. Pierre Forest, l'Olympique de Marseille est en tête du classement de la Ligue 1 et vous êtes arrivé en disant formidable, il faut en parler pendant au moins 25 minutes.
Bah oui,
je chambre un peu.
Oui, non, mais c'est normal. On en a tellement bavé les années précédentes avec les copains. Il y a des copains, des amis qui écoutent cette émission. Mais ben, pour une fois que ça arrive, on est en tête du championnat.
Oui, c'est ça, on note sur le calendrier.
On ne va pas se gêner, quoi. Voilà. Donc, une belle victoire de Marseille. Et puis on l'avait dit la semaine dernière, je crois que la meilleure recrue, toutes les équipes sont dans les recrues, la meilleure recrue c'est peut-être Bruno Genesio, l'entraîneur, qui a donné peut-être un autre souffle et surtout un autre aperçu de ce qu'il attend de l'équipe. Voilà, donc,
Eric,
laissez-nous déjà profiter de ce bon moment, hein. c'est très agréable, c'est tout simplement agréable. Alors des démarrages en fanfare de l'OM, c'est pas le premier.
Oui, il y en a eu, hein.
Pour le coup, il y en a eu quand même quelques-uns, et ça s'est souvent pas trop bien passé, ou en tous les cas moins bien passé que ça pouvait laisser augurer. Donc voilà, profitons, en plus c'est un beau match, il y a une belle prestation. Malheureusement, il devrait, comme je le disais en antenne, perdre encore quelques joueurs. Donc, on n'est pas sûr qu'ils puissent continuer à ce rythme-là, mais peu importe. Voilà, il y a eu une intersaison avec des matchs amicaux qui étaient intéressants, mais pas forcément très aboutis. Là, c'est une première. Je dis toujours que le démarrage est très important. Il conditionnera pas, évidemment, il ne déterminera pas le classement final, mais il est indispensable de bien commencer. Ça permet d'engranger un peu de confiance, ça permet que toutes les têtes soient fraîches, soient claires, et puis que l'ambiance dans le groupe et à Marseille soit bonne. Donc c'est une bonne chose. Et puis surtout, que ne gâchons pas notre plaisir, Paris a arraché un match nul ce matin, donc victoire de l'OM, match nul de Paris, c'est quand même un bon week-end quand même.
Ricardo, Yann, des choses à dire sur la Ligue 1, Ricardo?
Sur le PSG, oui.
Le PSG, allons-y, oui. Qui a fait match nul, effectivement,
match nul avec
ce matin à Rennes.
Ce qui m'a énormément surpris, c'est que c'est sa nouvelle recrue qui sauve le Paris Saint-Germain, donc Torres, il semblerait qu'il s'adapte bien à la tactique de l'entraîneur et qu'il se trouve à son aise dans l'équipe du PSG. Je suis arrivé tout à l'heure au congrès pour le discours du président. Et il y a une personne, la première chose qu'il m'a dit, j'ai eu chaud, on l'a échappé belle. J'ai dit, ah d'accord, ok. Donc, a priori, c'est vraiment Torres qui a porté le PSG à un match nul. Et puis, on va peut-être voir ce joueur s'éclater comme d'autres joueurs, comme un joueur de Naples, que je ne me rappelle jamais son nom, et qui joue très bien. Et donc, voilà, merci. Et ça nous promet des beaux duels. On va voir les prochains matchs, s'il y a un défi entre PSG et Marseille. Mais bon, pour l'arrivée de Genesio, je trouve ça super. Il commence bien le championnat.
Et je vais vous donner la parole dans un instant, Eric. Mais enfin, moi, ce que je trouve incroyable dans ce match Rennes-Paris-Saint-Germain, Au-delà du fait que c'est un match qui aurait dû jouer à Paris, etc., mais que la pelouse est brûlée par la canicule, qu'on a fait ça au dernier moment de retourner le match. Voilà. Mais ce que je trouve impressionnant, c'est que quand même, le Paris Saint-Germain a un bon de touche sur lequel on met un champion du monde, en l'occurrence.
Oui, mais c'est normal, il y a eu l'intersaison, il y a eu la finale de la Coupe du Monde, il faut laisser le temps aux joueurs de reprendre.
Quand vous avez Dembélé, etc., qui sont titulaires et que.
Mais puisque tu parles de Dembélé, il est à noter, comme pour tous les clubs d'ailleurs, que lorsque, et notamment pour Paris, puisque Paris domine l'Europe, donc il n'y a pas de discussion là-dessus, et ils continueront, je pense, à dominer encore, mais quand les meilleurs joueurs ne sont pas à leur meilleur niveau, ça rabat les cartes, forcément. Mmh. Ça permet à une équipe comme Rennes, justement, qui est quand même une équipe sérieuse, de pouvoir les déranger. Ils auraient. Alors, mériter, c'est difficile parce que Paris a quand même dominé quand même l'ensemble du match. Faut pas non plus se raconter d'histoire. Rennes a joué en contre et a très bien joué d'ailleurs, a été efficace. Et c'est souvent ce qui manquait à Paris avant son premier titre européen. C'était l'efficacité. On voit que Dembélé est encore de temps en temps parce qu'il aurait pu, c'est toujours difficile à dire, mais il avait une belle occasion, je sais plus à quelle minute de jeu, mais pour marquer. Et il est encore passé à côté. Alors c'est toujours difficile de parler d'un ballon d'or comme ça, mais il est plus aussi efficace que dans sa plus belle année il y a 2 ans. Et il faudra que ces joueurs-là, justement, soient efficaces. Alors, comme il l'avait très justement dit, on peut se passer d'un joueur à 40 buts en mettant 4 à 10 buts. Et il a prouvé, que ça fonctionnait. Donc, avec les nouvelles recrues et Ferran Torres qui arrive. Alors, Ferran Torres, c'est pas un serial buteur. Hein. Ouais. C'est un très très bon joueur, un très très bon buteur, mais c'est pas non plus un joueur à 30 buts par saison. Hein, il l'a montré au Barça, il l'a montré à City avant. Maintenant, ça reste un très très bon joueur et quand on est capable de marquer en finale de la Coupe du Monde, c'est pas rien. Et puis là, il rentre. Superbe démonstration d'acclimatation. Très très bien servi par son acolyte espagnol dont je ne me souviens plus le nom maintenant.
Bon, on va passer.
Voilà, hein, qui lui aussi est champion du monde et qui rentre aussi et qui lui fait 2 passes décisives. Mmh. Donc encore un bon coaching. Mmh.
En finale de la Coupe du Monde, Torres, il était rentré aussi en cours de deuxième étape. Il avait marqué.
Mais je me rends compte que ce PSG devient très hispanique. Hein.
Ah ben.
C'est-à-dire qu'il y a plus en plus de joueurs espagnols.
Le coach.
Enrique,
déjà.
Il y avait la filière portugaise à un moment donné et puis maintenant c'est espagnol.
Donc, c'est lui qui avait lancé en plus Torres quand il entraînait l'équipe nationale. C'est donc il essaye de récupérer des joueurs à qui il fait confiance et en plus ils sont jeunes quoi.
Il a la chance d'avoir un président et surtout un actionnaire qui est sans limite. Donc ils peuvent se permettre alors il faut bien choisir et pour le coup ils choisissent bien, mais ils ont la capacité financière derrière de permettre au coach de faire les bons choix et ça paye.
Un petit
mais
mot
je pense qu'on parle beaucoup de Paris quand même. On n'était pas en train de parler de Marseille.
Oui,
qui
a gagné 4-0, on va le rappeler. Et il y a d'autres équipes qui ont plutôt bien commencé leur championnat, en tout cas qui sont à la place à laquelle on les attendait. Lens qui a battu Auxerre, Lyon qui est allé s'imposer 2-0 sur la pelouse de Toulouse. On va faire un petit salut amical à Grégory Cyr qui a pas voulu venir ce soir à cause de la défaite de Toulouse. C'est bien parti aussi pour Lille, pour Monaco.
Intéressant pour les deux premières cités de voir qu'ils ont fait une bonne intersaison. Ils ont fait des bons matchs de préparation. Pour certains même des bons matchs de Coupe d'Europe déjà, puisqu'ils ont réussi, Lyon a réussi à se qualifier.
C'est
dans la lancée, donc c'est plutôt intéressant. Espérons qu'ils aient pas mis trop de choses tout de suite, même s'il fallait être tout de suite présent. Donc ça c'est plutôt sympa et ça promet au moins un bon début de championnat.
Ricardo.
Un bon début de championnat, c'est Lens hein, qui a battu donc le PSG il n'y a pas si longtemps et que là,
trophée des champions,
beau début de championnat. Donc ça nous promet peut-être un super championnat et j'espère qu'il y ait plus de rivalité avec le PSG. Quoi.
Et Yann, le foot c'est pas votre kiff. Hein. Je vous entends bien silencieux.
Je suis mais vraiment de loin.
Oui, vous n'allez pas marquer sur le calendrier la victoire de Marseille et le fait qu'il soit en tête du championnat de France. Après, rappelons-le quand même. La première journée, il en reste
évidemment,
35. Hein, on a calculé,
il en reste
35. Et comme on dit, c'est à la fin du spectacle qu'on paye
les musiciens.
Voilà. On va vite passer sur le football parce qu'on aura l'occasion, bien évidemment, d'en reparler à plusieurs reprises dans une semaine sportmidable. Tant qu'on est du côté du football et dès qu'on parle des clubs de tête, saluons la victoire de la Saint-Etienne ce week-end face au GF 38. Saint-Etienne qui est en tête du championnat de France de Ligue 2 avec 9 points en 9 matchs. On ne pouvait pas faire mieux. En 3 matchs, exactement.
Nous,
on n'est
pas en tête.
Oui, exactement. Le rugby, à présent, il y avait un test match ce week-end dont on avait parlé la semaine dernière, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Et les Néo-Zélandais qui sont allés s'imposer en Afrique du Sud, Pierre Forest.
Très belle victoire dans les Blacks. Très très belle victoire. On
s'attendait. C'est une semaine extraordinaire pour vos Marseillais en tête, les Blacks qui gagnent.
Oui, je pense que...
va bien quoi.
et les Verts en tête.
Et
aussi,
les Verts en tête.
Non, une très belle victoire. On s'y attendait pas d'ailleurs. Hein, et d'abord parce que les Sudaf avaient battu les Blacks sur les 5 dernières matchs, 5 dernières confrontations sur 6 hein, quand même. Et dont la dernière, me semble-t-il, en Nouvelle-Zélande, 43-10 l'année dernière. Je ne sais pas si on se souvient de ça. C'était une vraie piquette, comme on dit ici. Et puis là, contre toute attente, puisque évidemment il y a une forte domination en première mi-temps des Box chez eux, hein, à Johannesburg, ils ont hyper dominé, que ce soit en mêlée fermée, que ce soit en touche, et ils ont joué vraiment dans les 40 mètres tout en première mi-temps. Et c'est peut-être en fin de première mi-temps que le match a basculé, puisque à la mi-temps, je crois que le score était de 13-12, je crois. Il y avait un point de différence et il y a eu un essai tout fait sur un mouvement des box, un essai tout fait malheureusement du talonneur Malcolm Marx, talonneur titulaire des box, qui a lâché le ballon. Alors que là, ça pouvait scorer 7 points tout de suite. Et puis, on a senti également, à ce moment-là, les Néo-Zélandais plier, mais ne pas rompre. Ils ont été courageux à plaquer, etc. Vraiment, la grosse équipe de Black. Et puis, ce qui a fait aussi la différence, c'est que sur les 10 dernières minutes, il y a eu deux cartons jaunes. Et ils ne pouvaient plus revenir, puisqu'on était sur les 10 dernières minutes. Et notamment du Reina, qui est le demi-mêlé titulaire des box, mais là qui était rentré comme remplaçant. Et évidemment, les Blacks ont fait la malle. Score assez important quand même, 33-16. Mais ça vaut le coup. Vraiment un bon match. Non pas équilibré, déséquilibré en faveur des box, mais à la fin c'est les Blacks qui gagnent, donc le sérieux et l'abnégation, le courage des Blacks a fait le reste.
Eric, vous n'avez pas vu le match parce que Pierre a oublié de vous prévenir.
Pour ceux qui nous écoutent, moi aussi je ne savais pas s'il était télévisé, et puis de toute façon c'était à 17h10 en Afrique du Sud,
même latitude
que la métropole, et donc c'était à 2h du matin. Je me suis dit, bon, je verrai bien. Et c'est le lendemain matin, à 6h, à dimanche, en zappant un peu les infos qu'il y avait de la nuit, que je suis tombé sur le match qui venait juste de commencer. Donc, j'ai regardé en entier. Voilà. Donc, peut-être que dimanche prochain, ça sera à 6h aussi.
C'est une façon de prévenir votre famille qu'il n'y aura pas de croissant et,
voilà, il y aura pas de croissant,
et pas au chocolat dimanche prochain non plus.
Malheureusement, j'étais devant le golf, donc du coup, j'ai pas pu zapper et j'ai raté le match. Donc, j'ai vu les commentaires et puis quelques images, bien heureusement. Mais ouais, une belle victoire. Et puis surtout une grosse défense, Pierre l'a dit, et ça c'est intéressant. Alors évidemment, ce qui va être intéressant forcément, c'est la première des revanches, enfin la revanche du week-end qui arrive, puisque là ils vont être très revanchards, hein, ils ont perdu chez eux. Maintenant là aussi, comme je le disais pour le Paris Saint-Germain, quand ils n'arrivent pas à marquer des points contre une équipe comme la Nouvelle-Zélande, ils peuvent perdre ce match. Ils sont certes encore dominateurs, je pense qu'ils ont montré pendant une bonne heure qu'ils étaient encore un peu au-dessus du lot, mais à la moindre occasion, contre les Blacks, ça, tant pis, on paye. Hein. Et puis les Blacks ont magnifiquement su jouer, ont enfin retrouvé du jeu et peu d'erreurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis Rennie est en train de mettre sa patte. Voilà, il a fait un choix fort. Il a fait un choix fort avec l'ouvreur, avec Love. C'est quand même pas rien, en laissant Boden Barrett carrément dans les tribunes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, avec deux beaux ouvreurs dans les deux camps, puisque je ne donnerai pas le nom du Sudaf parce qu'il est imprononçable. mais c'est assez intéressant, donc vivement la suite.
Semaine prochaine, week-end prochain, le deuxième test.
Alors le deuxième test est cette semaine. Je crois que c'est mercredi, me semble-t-il. C'est le quatrième match avec les franchises là. Mm-hmm. Mais en fait, c'est les Lions britanniques.
C'est ça. C'est les Lions. Ouais.
Les Lions britanniques qui vont rencontrer les Blacks. L'équipe 2 des Blacks, oui. Pas celle qui vient de gagner.
C'est ça. Et est-ce que ce match Afrique du Sud Nouvelle-Zélande, ça a donné quelques pistes pour la Coupe du Monde qui va arriver tout doucement?
Alors
est-ce
d'abord,
que
ça prépare déjà les équipes de l'hémisphère sud qui vont se déplacer dans l'hémisphère nord au mois de novembre
ouais.
Puisque vous savez, le championnat des nations, ils ont fait 3 matchs chacun dans l'hémisphère sud.
Et ils vont rejouer 3 dans l'hémisphère nord.
Et la France va rencontrer d'abord les Fidji le 7 novembre, il me semble, et puis le 13 novembre, c'est un vendredi soir, me semble-t-il, c'est l'Afrique du Sud, donc au Stade de France. Donc ça, et pour finir, l'Argentine pour l'équipe de France. Oui. Mais bon, il y a déjà ça. Et puis, on avait là, et puis on va les avoir encore pendant 3 week-ends. On a les deux équipes qui ont rencontré les 7 éditions de la Coupe du Monde. Hein. Donc 4 pour l'Afrique du Sud et 3 pour la Nouvelle-Zélande. Et donc, comme on est en période de juste avant la prochaine Coupe du Monde, en Australie en plus, donc il ne faudra pas aller chercher bien loin la finale.
c'est inquiétant pour les adversaires.
Surtout pour l'équipe de France.
Voilà, exactement, les adversaires. Mais
en même temps, au mois de juillet, rappelez-vous, l'équipe de France qui était en tournée dans l'hémisphère sud avait perdu de 2 points seulement, me semble, c'est de 36-38 contre les Blacks. Donc,
Étant, perdu une finale de 2 points, c'est la finale est perdue.
Ben, ils ont perdu d'un point les Blacks, hein. D'un point à Paris. Hein.
Donc,
on savait que l'équipe de France dominait, était la meilleure équipe européenne aujourd'hui. Je pense que, même si évidemment tout peut arriver, mais je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Et il restait que les box qui étaient véritablement au-dessus, et les Néo-Zélandais pour moi à hauteur, parce que la Nouvelle-Zélande jouait quand même un peu moins bien depuis 2-3 ans surtout. Et puis on se demandait il y a déjà quelques semaines si Rennie allait pouvoir retransformer à nouveau le jeu néo-zélandais. C'est trop tôt pour le dire, parce que si les box remportent les 3 prochains matchs brillamment, ils ne seront pas plus avancés. Mais si effectivement la Nouvelle-Zélande continue à jouer comme ça et embête encore au moins sur un des 3 matchs les box, ça fera 2 adversaires de plus probablement supérieurs à l'équipe de France. Et donc il faudra que l'équipe de France aille encore plus haut pour gagner cette première Coupe du Monde.
Allez, match retour, j'allais dire, de cette série de test match. La semaine prochaine, on avait eu le Giro, la grande boucle. Il n'en manquait plus qu'un, c'est la Vuelta, le Tour d'Espagne, qui a débuté ce week-end en principauté de Monaco. On a couru les 2 premières étapes. Et à l'issue de ces 2 premières étapes, figurez-vous que c'est un certain, pas très connu, Tadej Pogacar, qui est en tête du classement général, avec déjà 9 secondes d'avance sur le Belge Van Aert et 13 secondes, c'est écrit en tout petit, 13 secondes d'avance sur l'anglais Brennan. Yann Stéphan, le Tour d'Espagne, je vais poser exactement la même question que j'avais posée à Ricardo Baroni pour le Tour de France. Le Tour d'Espagne est terminé, là c'est bon, Tadej Pogacar est en tête, c'est bouclé?
Non, c'est pas encore bouclé, mais c'est vrai que les prédictions disent que ça serait peut-être bouclé en fin de semaine prochaine, avec toute la montagne qui arrive. Mais bon, on n'en est pas encore là. On a quand même assisté à un très beau départ du Tour d'Espagne à Monaco, avec ce départ du prologue, du prologue qui s'est lancé du casino. Vraiment un circuit atypique parce qu'en fait, il passait même au milieu du cirque, etc. Enfin, c'était presque un circuit de Formule 1 pour le vélo.
Oui, c'est ça, ouais.
Parce qu'en fait, il y avait énormément de relances, des petites lignes droites avec beaucoup de relances. Et en fait, les spécialistes du contre-la-montre n'ont pas vraiment pu s'exprimer comme ils le voulaient. Et c'est bien sûr notre Pogacar qui le remporte. Mais bon, c'est vrai qu'on c'était quand même vraiment très 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 bien. Et puis on a noté justement qu'en fait il s'est retenu pendant un moment donné. En fait, il y avait quand même Joshua Tarling qui a été marqué par le décès de son petit frère du Portugal la semaine dernière, qui avait pris le premier temps. Après, c'est le Britannique Ethan Hayters qui a pris le meilleur temps. Et en fait, Pogacar était déjà parti, donc il ne le savait pas. Et il savait que c'était Joshua Tarling, pour lui, qui était en tête. Donc, dans les oreillettes, on lui a dit, ben non, finalement, c'est plus lui. En fait, il lui aurait presque laissé la victoire. Oui. Mais c'était pas le cas. Donc, quand il a su que c'était plus lui, il a réaccéléré. Et puis, finalement, avec toutes ses relances et tout, il a réussi pour quelques dixièmes de seconde, encore une fois. J'en parlais hier avec Ricardo encore. Exactement la même situation que le contre-la-montre avec Mathieu Van Der Poel au Tour de Suisse. Ouais. On était retombé exactement sur la même chose. Donc c'est vrai, un prologue très haletant, et en tout cas pour cette première entrée avec le Tour d'Espagne. Voilà.
Ricardo, Tadej Pogacar en tête. Je vous repose la question. Philippe, Tour d'Espagne.
Non,
c'est vrai. Vous allez me dire qu'il y a encore le maillot blanc, le maillot à poil.
C'est vrai que si ça doit se passer normalement, la victoire finale, c'est fort probable que ça soit Tadej Pogacar. Ce que je regrette un peu, puisqu'on avait eu le Tour d'Italie avec Jonas Vingegaard qui a survolé et qui a gagné. On a eu le Tour de France, la même chose avec Pogacar. Je me suis dit, s'il n'y en a pas un des deux au Tour d'Espagne, ça va nous faire un Tour d'Espagne avec un peu de succès ouvert. Voilà. Mais comme il a fait la trilogie Jonas Vingegaard en gagnant un Tour de France, en gagnant le Tour d'Italie et la Vuelta, donc je pense que Tadej Pogacar a envie de faire la même chose. En plus, il ne faut pas oublier que ça partait de chez lui. C'est-à-dire, il est slovène, mais il est résident à Monaco. Et donc, il partait vraiment de chez lui. Et donc, on pense qu'il va déjà l'étape de cette nuit, avec une arrivée au sommet à Fort-Romeu. Donc, je pense que déjà là, on va voir peut-être pas qui a perdu le Tour d'Espagne, mais je pense que ça va s'éclaircir un peu. Et je ne serais pas surpris que Tadej Pogacar fasse un écart, surtout avec les rivaux du classement général. Il est possible qu'un autre coureur gagne cette étape et qu'il laisse partir le maillot rouge de leader de la Vuelta. Mais ses principaux adversaires, qui sont Alex Gall de l'équipe Decathlon, CMA, CGM, par exemple, ce genre de coureurs, je pense qu'il va essayer de mettre des écarts avec eux. Mais bon, on a d'autres suspens. On a Français, on a eu une super étape cette nuit avec une arrivée vraiment fantastique avec Wout Van Aert et Tadej Pogacar qui ont attaqué à environ 1,5 km de l'arrivée. Donc ça nous a fait un beau spectacle. Je pense pas qu'il faut partir sur le Tour d'Espagne et viser uniquement le classement général. Il faut regarder étape par étape et voir le suspense qu'il y a. Parce que malgré cela, il y a quand même des Français qui sont présents sur ce Tour de France et
Tour d'Espagne.
Pardon, vous avez raison. On va même rectifier, on va dire sur la Vuelta, des Français sur la Vuelta, et qui sont par exemple Laporte, qui est dans l'équipe Visma, qui marche très fort. Il y a Léo Bisio, qui a signé jusqu'en 2030 dans l'équipe
Decathlon. Et qui est quatrième au général là, ce soir.
Tout à fait. Ce qui est surprenant, c'est que lui a signé et que notre Paul Sexas, lui, par contre, a confirmé qu'il respecterait son contrat pour l'année prochaine, mais on ne sait toujours pas s'il prolonge son contrat dans l'équipe Decathlon. Donc je pense qu'il peut y avoir quand même du suspense. L'arrivée au sprint de cette nuit, il y a quand même deux Français qui arrivent dans les 10 premiers. Donc non, je pense que ça mérite d'être suivi.
On va marquer une toute petite page de pub. On revient dans un instant et on continue de parler de la Vuelta édition 2026.
RRB, la pub.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Le tout info continue avec Toyota. Le tout nouveau Toyota RAV4 hybride est à découvrir chez Toyota, à Ducos et à Kone.
RRB, Radio Rythme Bleu.
Une semaine sportmédable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
La deuxième mi-temps d'une semaine sportmédable sur Radio Rythme Bleu. On parlait cyclisme avec le coup d'envoi de la Vuelta et nos invités Jens Stefan, Ricardo Baroni, Pierre Forest, Eric Figuer. Jens Stefan, je reviens vers vous. Le Giro, le Tour de France, la Vuelta. On a toujours l'impression que ce Tour d'Espagne, bah, il passe un peu inaperçu après le Giro et puis le Tour de France qui est un peu le monument des grands tours. Et pourtant, c'est une course qui est intéressante parce que toujours très montagneuse, j'allais dire que c'est un tour qui est extrêmement compliqué, le Tour d'Espagne.
Oui, tout à fait. Une étape vraiment pour les grimpeurs. On l'a bien connu avant avec notre spécialiste français, hein, c'était Moncoutier qui avait remporté, je ne veux pas dire de bêtises, mais presque, il me semble, 5 fois le maillot à poids, poids inversé par rapport au maillot du Tour de France. Ouais. Mais effectivement, là, il apparaissait presque un peu fade, et puis finalement, ma Pogacar s'est rajouté, donc tout de suite, ça a pris de l'ampleur. Mais là, dans les jours qui viennent, les grimpeurs vont s'exprimer. Hein. Il y a quand même de très très bons grimpeurs. Donc on le disait juste avant. Donc Félix Gall pour Décathlon, CMA, CGM. Et j'ai vu, il y a Sepp Kuss qui avait fait quand même des bons résultats. Et pour la petite histoire, qu'il a quand même gagné il y a 2 ou 3 ans maintenant, quand il y a eu la période avec Roglic et Jonas Vingegaard. Et en fait, finalement, il l'avait laissé à Sepp Kuss. Donc effectivement, le Tour d'Espagne, toujours avec des très grandes montagnes, notamment Langiru, bon, cette année, il est pas au programme, mais c'est vrai que ça a toujours été réservé aux spécialistes de la montagne. Bon, et toujours réservé, et toujours aussi très chaud. Ouais. Et là, je pense qu'ils sont partis un peu sur la même chose, donc ils vont vraiment subir la chaleur.
Ricardo,
ce qui me plaît sur la Vuelta, c'est qu'il y en a qui vont donc pour le résultat final, mais il y en a qui vont pour préparer les championnats du monde. Ouais. Donc des fois, on voit des coureurs qui sont pas à l'avant, mais on voit qu'ils font une préparation, qu'ils font des efforts au moment bien précis et tout, et uniquement pour préparer les championnats du monde. Il n'y a pas beaucoup de jours de mémoire, il n'y a qu'une dizaine de jours après l'arrivée. Donc de la Vuelta et les championnats du monde qui auront lieu cette année au Canada. Donc ça fait un tour qui est pour certains un tour de préparation. Certains, ben, ils ont raté leur saison, c'est-à-dire soit ils sont tombés au Tour de France ou le Giro s'est mal passé. Donc c'est un petit peu un tour, on va dire, de rattrapage. Mais c'est quand même une course qui a toujours du suspense et des étapes qui sont qui méritent être regardées.
Jens Stefan, je disais un peu en plaisantant, le Tour d'Espagne est joué avec Pogacar. Évidemment que pour l'arrivée finale et pour la victoire finale, il fait partie des favoris. Vous, vos favoris, après ce que vous avez vu ces deux premières étapes, ou hormis Pogacar, vous voyez bien qui
Oui, bon, alors Pogacar, c'est sûr que ça, c'est sûr, il va faire la différence dès la première semaine. Et puis après, bon, on l'avait déjà évoqué, pour pouvoir finir entre guillemets tranquillement et service de cette course en préparation pour les championnats du monde. Bon, bah lui, pour lui, le but, c'est en fait, surtout qu'il avait dit initialement au mois de juillet qu'il participerait pas. Oui. Finalement, il participe et puis voilà, il va pouvoir aligner la même chose que Jonas Vingegaard et avoir ses 3 Tours de France. Mais après, derrière, bon, bah, pour moi, le grand favori, on l'a vu sur les courses qui précédaient le Tour de France, derrière, ce sera Félix Gall en montagne, effectivement. Après, il y a Léo Bizio, hein, qui est également très bon. On l'a vu sur les différentes courses aider Paul Sexa. Après, on a les vétérans comme Primoz Roglic qui sont alignés également. Ouais. Et il est retour de blessure. Il est très content d'être sur la course. Je pense qu'il va faire de belles choses. Et comme je le disais avant, alors je ne sais plus maintenant si c'était hors antenne ou pendant l'antenne, mais Sepp Kuss, je pense qu'il peut être pas mal non plus. Surtout que l'équipe Visma, on le disait, ils sont bien en canne tous. Avec toute l'équipe et je pense que même dès cette nuit, hein, Ricardo disait que Tadej Pogacar pourrait reprendre le maillot, mais un Van Aert demain, c'est pas impossible, hein. Notre Van Aert, on l'a vu quand même gagner une étape au Mont Ventoux il y a quelques années, où on montait 2 fois le Ventoux, donc Enfin, pour demain, moi, je dirais bien Van Aert hein, sur l'étape.
Hein. Ouais. Est-ce que Pogacar est capable de faire victoire Tour de France, victoire Tour d'Espagne, et après d'aller se mettre sur le dos le maillot arc-en-ciel de champion du monde, Ricardo?
C'est son objectif.
C'est son objectif, mais est-ce que entre l'objectif et la réalité,
c'est pour ça qu'il va essayer de faire de gros écarts dès le départ pour après gérer.
Être tranquille, ouais.
Voilà.
Ouais.
Le seul problème, c'est qu'il n'a pas à côté de lui une équipe comme celle qui était au Tour de France. L'équipe est nettement inférieure à ce Tour d'Espagne. Donc après, pour gérer la Vuelta, le résultat final, ça va pas être évident. Mais s'il fait d'entrée des gros écarts, ben, il va distribuer les tickets de sortie aux autres équipes pour aller gagner une étape sur cette Vuelta, quoi. Mais sinon, l'équipe est nettement inférieure à l'équipe Visma, qui l'équipe Visma est arrivée avec le Français Laporte, avec Brennan qui a sans oublier gagné l'étape de cette nuit, mais vraiment très fort, et il l'a gagné avec 2-3 vélos d'avance. Et on a ce coureur Wout Van Aert qui est très apprécié, qu'on n'oublie pas qu'il a gagné un super Paris-Roubaix cette année.
Exactement. J'aimerais aussi signaler, parce que ça m'a rappelé plein de souvenirs, on les évoquait hors antenne avec vous, Ricardo, la 6e place au général du Suisse Stephen Kung, qui était, il y a bien des années en arrière, sur le Tour de Calédonie, qui avait notamment remporté une étape au Mont d'Or. Et je le revoyais démarrer dans un des cols avant le Mont d'Or. Et voilà, il est 6e sur le Giro, mais il avait gagné plein de choses avant, Ricardo.
Sur cette Vuelta, il ne faut pas oublier que le maillot de leader a été porté l'année dernière par un Français, David Godu, qui malheureusement ne participe pas cette année. Mais on peut avoir ce genre de surprise avec Léo Bisio, comme le disait Yann tout à l'heure, qui est un coureur très performant et qui se sent rassuré et tranquille et rassuré par la confiance de son équipe pour avoir signé jusqu'en 2030 dans l'équipe Decathlon.
On reparle bien évidemment de cette Vuelta, j'allais dire le Giro, de cette Vuelta 2026 dans nos prochains numéros d'une semaine sportmidable. On va parler golf, parce qu'il y avait le BMW Championship ce week-end.
Oui, qui était la deuxième étape des play-offs.
On avait fait la première étape la semaine dernière.
Voyons
ce qui se passe.
Et ben, vainqueur de l'Américain Wyndham Clark, qui est quand même vainqueur de l'US Open cette année. Donc, ce n'est pas le premier venu. Double vainqueur, d'ailleurs, parce qu'il l'avait déjà gagné il y a 2 ou 3 ans maintenant. Donc, très, très belle victoire. Il a pris la main après le troisième tour, pour ne plus la lâcher. Il a été un petit peu embêté par un revenant, Rory McIlroy, qui avait quasiment fini dernier la semaine dernière, ce qui n'est pas du tout dans ses standards, écrasé par Scottie Scheffler, numéro 1 mondial. Et puis cette semaine, il est enfin revenu aux affaires, pas suffisamment encore à cause d'un driving encore en panne, mais il s'est classé 3e de l'épreuve, derrière Cantlay, et puis derrière évidemment le grand vainqueur, parce que c'est vraiment une très très belle victoire. Alors pour le coup, ça ne leur donne pas un avantage quelconque pour la semaine prochaine, puisque des 70 premiers, il y a la semaine dernière, on est passé aux 50 cette semaine,
et puis ils seront
la semaine
plus 30,
prochaine, ils seront plus que 30, voilà. Donc ça nous donnera les 30 premiers du classement général, évidemment, pas forcément ceux qui sont le plus en forme, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont un petit peu en difficulté, mais ça va nous promettre un très, très beau spectacle. Bon, on peut considérer qu'ils sont 5 ou 6 à pouvoir gagner la finale et empocher la petite somme, maudite somme de 10 millions de dollars.
Oui, c'est ça. C'est ce que
associé
je regardais.
Au gain du tournoi, bien évidemment, puisque on ne fait pas que gagner.
Oui, pour finir la saison, 10 millions de dollars,
oui,
c'est
plutôt
pas mal.
Scottie Scheffler, numéro 1 mondial, n'a pas encore, puisqu'il n'a pas très, très bien joué cette semaine, ça a été un peu surprenant, mais il n'a pas encore dépassé les gains en tournoi de Tiger Woods. Donc ce sera pour la semaine prochaine sans difficulté.
Une fois que ce tournoi, la semaine prochaine, le Tour Championship sera joué, la saison sera terminée
Elle sera terminée pour les meilleurs, c'est-à-dire pour tous ceux qui se sont qualifiés en fait dans les 70 premiers.
Mais on continue pour les autres.
Mais après, il y aura 8 tournois pour classer justement entre la 71e et surtout la 100e, puisque la 100e, les 100 premiers conservent leur carte pour l'année suivante. Donc ils seront au moins une centaine de joueurs à se battre sur ces 8 tournois, dont les Français Adrien Sadier et Mathieu Pavon. Voilà. Qui vont essayer, alors ça va être très difficile, mais ils vont essayer de conserver leur carte.
Mathieu Pavon, qui a gagné un tournoi sur le PGA, qu'on n'a plus revu.
Il a fait une première saison exceptionnelle, puisqu'il a fait ce qu'aucun Français n'avait réussi à faire, gagner un tournoi de la saison régulière aux États-Unis. Et puis, ça lui a ouvert des portes fabuleuses, puisqu'il a joué tous les tournois majeurs, tous les tournois signature. Et puis, malheureusement, La saison suivante a été beaucoup plus difficile. Et puis aujourd'hui, il est très très mal placé pour conserver sa carte. Et là, il est en Europe pour 15 jours. Pour essayer de s'entraîner un peu et de recharger les batteries et de lui permettre de sauver sa carte. Mais ça va être très compliqué parce que le niveau est tellement élevé. Voilà, il y a tellement de monde, il y a tous les jeunes qui arrivent. C'est pas mission impossible, bien évidemment, puisque d'autres conservent leur carte, mais c'est vraiment très, très difficile.
Et on en reparle la semaine prochaine, puisqu'on aura
le grand vainqueur. Il y aura donc la finale de la FedEx Cup.
Un tout petit mot de Formule 1, puisque ça reprenait ce week-end, 12e manche du championnat du monde. C'était sur le tracé de Zandvoort aux Pays-Bas, avec la victoire du champion du monde en titre, Lando Norris, qui a devancé le leader du championnat du monde, Kimi Antonelli, et George Russell. Et pour le dernier Grand Prix des Pays-Bas, Max Verstappen, malheureusement, a fini contre un mur, voiture complètement explosée. On est passé quand même à deux doigts d'un très très gros accident hier soir au premier tour. Mais Ricardo,
on a eu droit aux images puisque c'était un Français qui était juste derrière.
Impressionnant.
On a eu droit aux images. On se demande même comment à cette vitesse-là a pu éviter la voiture de Verstappen. Ouais,
c'est miraculeux. Miraculeux. Et au championnat du monde, c'est Kimi Antonelli qui est toujours en tête devant George Russell et Lewis Hamilton. Mais oui,
Lewis Hamilton qui est maintenant à égalité avec Russell. Donc
exactement.
Ça nous permet là aussi un suspense derrière Kimi Antonelli. Mm-hmm. Durant le Grand Prix, on va dire que Russell a laissé passer Kimi Antonelli pour faire plus de
évidemment
points et creuser l'écart vis-à-vis d'Hamilton au championnat.
Et prochain Grand Prix ?
Et ben, ce sera dans 15 jours
et
ce sera Monza en Italie avec Kimi Antonelli qui va avoir du mal à s'imposer parce qu'il va changer le moteur de sa voiture et forcément il partira en fond de grille, donc ça sera très compliqué pour lui de remonter, mais qui sait.
Ouais, mais Mercedes, ils sont tellement au-dessus du lot actuellement.
Exactement.
Que même quand ils sont en difficulté, ils font deuxième et troisième.
Exactement. Messieurs, vous me reprochez à juste titre très souvent de pas prendre le temps de faire les coups de cœur, les coups de griffe, les coups de gueule. On a un peu de temps, 3 minutes devant nous, on commence, Eric Figuier.
Avec plaisir. D'abord les Français qui gagnent, parce qu'il y en a eu beaucoup ce week-end, ouais. et pas des moindres, et pas pour des compétitions de niveau inférieur. Il y a d'abord l'équipe de France de Cécifoot, qui est championne d'Europe après son titre olympique, ouais. Et puis ensuite les joueurs de badminton, qui ont gagné en double mixte Delru Jiquel et Alex Lanier en individuel, donc ça c'est tout bonnement exceptionnel, puisque ça n'était jamais arrivé.
Jamais vu, ouais.
Voilà, on associe Arthur Fils, je sais que Ricardo voulait en parler et moi aussi, donc je ne l'avais pas oublié.
En fait, vous faites les coups de cœur pour tout le monde.
Je fais les miens et j'en
vous
profite.
Avez décidé de...
Non, mais ils pourront reprendre.
Il n'y a pas l'OM.
Il n'y a pas de problème. Arthur Fils qui gagne, bien sûr, depuis 12 ans, il n'y avait pas eu un Français qui s'est qualifié. On ne peut pas ne pas en parler. Et puis, bien sûr, les golfeurs. Hugo Koch qui remporte chez les garçons le SPGO cette semaine. Ça, c'est magnifique. Et puis, il commence demain le Hyundai. Le tournoi senior calédonien sur 3 parcours différents, Deva, Dambéa et Lawengi, tout au long de la semaine, mardi, mercredi et vendredi. Et je laisse la place donc.
Vous voyez que vous avez du temps, il a tout fait.
Non, mais il a oublié Paul Magnier qui a gagné la dernière étape du Tour d'Allemagne.
Exactement.
D'accord.
Votre coup de cœur, Ricardo.
Mon coup de cœur, c'est à l'arrivée de l'étape donc, de cette nuit de la Vuelta, où le fils de Wout van Aert est allé devant Tadej Pogacar. Il l'a regardé, Tadej Pogacar lui a donné ses lunettes et le gosse, il était super content d'aller voir son papa avec les lunettes de Tadej Pogacar. Et je trouve que c'est un état d'esprit qui me plaît énormément. Au contraire de la Formule 1 où on entend au micro Hamilton se fâcher avec son team, alors qu'il se fâche avec un adversaire, avec tout, ça me va, mais avec le team qui, je pense, s'investit à 100% pour lui donner la voiture qu'il faut et tout, c'est un peu dommage d'entendre ce genre de choses, surtout qu'après la compétition, c'est des expressions qui ne servent absolument à rien pour la performance de la voiture.
C'est bien noté. Yann Stéphane.
Oui, deux petits coups de cœur. Moi, j'ai tout d'abord donc Mathieu Van Der Poel qui s'était aligné en VTT sur l'épreuve DG en cross-country. Donc, il avait terminé 10e au qualif sur le circuit court et il finit quand même 2e. Il était pratiquement en passe chances de gagner. Et donc, c'est un Français, hein, Boishy, qui s'impose juste devant. Une très belle course du Français. Oui. Mais bon, Mathieu Van Der Poel, il est à moitié Français.
Et, c'est sûr.
Voilà. Et un deuxième petit coup de cœur, et j'en parlais avec Ricardo hier, vraiment une image très impressionnante. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, mais c'est après la victoire de Max Alram pour la descente. J'avoue, je regarde très rarement la descente, mais là, j'ai regardé. Et cette image du drone, et on voit la marée humaine juste c'est après incroyable. Son arrivée, qui descend. Incroyable, vraiment.
Des images incroyables. Je suis tombé dessus sur les réseaux, et effectivement, oui, c'est très marquant. Pierre Forest.
Alors, je vais terminer par le rugby, hein, évidemment.
Ah bah, quand même. Elina, un peu de choses sérieuses.
Coup de cœur à Elina Folito, qui est une jeune fille qui était pensionnaire du Pôle Espoir Rugby en Calédonie il y a 4 ans, qui est partie au Pôle Espoir de Toulouse, qui est licenciée au Stade Toulousain, et qui a fait un petit peu, parce que l'objectif des pensionnaires du Pôle Espoir, c'est d'intégrer les équipes de France jeunes. Donc, elle a intégré l'équipe de France des moins de 18 ans, et là, elle est sélectionnée avec l'équipe de France des moins de 21 ans. C'est l'antichambre de l'équipe l'équipe A, et pour affronter l'Angleterre. Voilà.
Eh bien, merci, messieurs. Non, votre coup de cœur, non. Non, non, vous reviendrez avec vos 12 coups de cœur la semaine prochaine, Eric Figuier. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro d'une semaine sportmidable. On se retrouve bien évidemment lundi prochain pour de nouvelles aventures. Et merci à vous quatre. À très bientôt.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine sportmidable sur Radio Rythme Bleu.